Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
Radio. C'était déjà une incroyable saga judiciaire, mais là, elle vient de prendre une toute autre tournure. L'ex-juge Jacques Delisle, donc, va coucher en dehors de la prison ce soir. J'allais dire, va coucher à la maison, mais il y en a probablement plus, là, à l'heure où on se parle, après 9 ans derrière les barreaux. Elle a suivi ça énormément au cours des dernières années. Catherine Lamontagne, journaliste au Journal de Québec. Bonjour, Catherine.
Bonjour. Je me permets une petite correction tout de suite. Monsieur Dumont, Monsieur Delisle a toujours sa maison et c'est là qu'il va retourner.
Ah, pour vrai? Et... Alors, je l'ignorais. Je me disais qu'au fil des années, il a toujours gardé son condo, là, sa maison.
Le même condo là où son épouse, Nicole Rainville, a été retrouvée sans vie en 2009.
Et est-ce qu'on sait s'il va vraiment dormir là ce soir?
On ne sait pas s'il va dormir là ce soir, mais c'est clairement là qu'il va aller à sa sortie de prison là, dès qu'il pourra la quitter, là, dès que tout sera en ordre pour se faire.
OK, donc durant les 9 années, il a gardé suffisamment de foi qu'il allait faire changer la décision, faire annuler la condamnation. Il a gardé son condo.
Il n'a pas vendu son condo, puis ça fait partie des conditions de remise en liberté. Il doit vivre à cet endroit-là dans l'attente de son procès.
Bon, mais tu m'apprends tout ça. Quelle saga, la fin... Quel événement c'était lorsqu'il a été arrêté, accusé? T'sais, quand même, dans la région de Québec, c'était un homme connu, un juge, il a été juge jusqu'à la cour d'appel, était à la retraite, et là, accusé du meurtre de son épouse. C'était un onde de choc épouvantable à Québec, là.
Ah oui, puis c'était la première fois au Canada qu'un juge est accusé de meurtre prémédité. On se souvient, c'est quand même l'accusation la plus grave au code criminel. Donc, clairement, ça avait fait grand fracas. Et à l'époque, rappelez-vous, il y avait certains analystes, certaines personnes qui étaient issues du domaine judiciaire qui disaient ça doit être un crime par compassion. Sa femme, elle était hypothéquée, elle était handicapée du côté droit, paralysée du côté droit, pardon. Donc, rapidement, c'était le genre d'hypothèse qui avait été émise à l'époque.
Ouais. Et là, meurtre par compassion, est-ce qu'elle-même, parce que là, toute l'histoire, lui était parti faire une commission, est-ce qu'elle-même avait utilisé l'arme à feu disponible dans la maison et s'était enlevé la vie? Mais là, il y avait la question qu'elle n'était pas très mobile elle-même, et pas très habile, pas très mobile même pour aller chercher l'arme, etc. Au cœur de ce procès, à l'époque, il y avait eu la décision du juge, et peut-être le conseil de son avocat, mais bon, il connaissait le droit quand même, il était juge jusqu'à la cour d'appel, de ne pas témoigner. Donc, il n'avait jamais lui témoigné, jamais donné sa version lors de son procès.
C'est exact. En fait, Jacques Delisle avait été annoncé comme témoin de la défense. Donc, on s'attendait pendant le procès en 2012 qu'il vienne raconter ce qui s'était passé là, ce fameux matin du 12 novembre 2009. Mais à la toute dernière minute, revirement de situation, la défense avait annoncé sa preuve close sans le témoignage de Jacques Delisle.
Les experts ont toujours dit que son avocat, qu'on considère un des plus seniors criminalistes, avait l'impression qu'on avait créé le doute raisonnable et que c'était plus nécessaire. C'était même peut-être plus risqué. Il pensait qu'il avait fait le nécessaire pour créer le doute raisonnable sans prendre le risque de faire témoigner l'accusé lui-même.
C'est ce qui avait été dit à l'époque en 2012. Mais 3 ans plus tard, quand Jacques Delisle avait épuisé tous ses recours à la Cour d'appel et à la Cour suprême pour tenter de faire casser le verdict et qu'il a déposé sa demande de révision ministérielle à Ottawa, puisqu'il disait victime d'une erreur judiciaire. Là, il a livré pour la première fois une version des faits. Là, il a dit finalement qu'il avait aidé sa femme à s'enlever la vie en lui fournissant une arme prohibée et chargée à la demande de sa femme.
Ce faisant, il avouait un crime.
Et évidemment, il se rend coupable d'un autre crime. Mmh. En fait, deux, là, parce que bon, une arme prohibée en partant, puis d'avoir aidé possiblement là, sa femme à s'enlever la vie en lui fournissant l'arme. Donc, c'est d'autres infractions, évidemment. Et à ce moment-là, il disait là, qu'il avait regretté de ne pas témoigner, qu'il n'avait pas témoigné parce qu'un proche de sa famille l'avait supplié de ne pas le faire. Ce qu'on lui avait dit, c'est que si Jacques Delisle allait dire qu'il avait aidé sa femme en mettant fin à ses jours, ce serait catastrophique pour la famille.
Ouais. Bon, là, on comprend qu'avec... Mettons que ces accusations-là, parce que là, c'est un peu ça. Là, le ministre a exigé un nouveau procès, a ordonné un nouveau procès. On parle du mois de septembre. Que fera la couronne? Est-ce que la couronne déposera Mais on pense pas que ça va être un procès comme le premier. Est-ce que la couronne déposera des accusations en ce sens-là, là, comme les deux infractions que tu viens de nous nommer, puis qu'on aura déjà une entente avec la couronne, parce qu'on évidemment, c'est pas des infractions qui amènent la prison à vie, qui amènent la même gravité. Il aurait probablement une peine à ce moment-là inférieure au nombre d'années qu'il a déjà passé en prison. Donc ma longue histoire pour dire, il passera plus jamais une journée en prison. Là, ce serait très très peu probable qu'il soit recondamné la prochaine fois pour quelque chose de d'assez grave pour le retourner derrière les barreaux.
Mais à l'heure actuelle, le DPCP, la couronne, eux de leur côté, là, ils traitent cette affaire-là comme un deuxième procès pour meurtre prémédité. Il y a un point de presse tantôt là, après la remise en liberté de Jacques Delisle, et la porte-parole du DPCP était très claire. Là, les procureurs en ce moment travaillent l'affaire comme si c'était là, une accusation de meurtre prémédité. Donc là-dessus, ça n'a pas bougé.
Là, je vais y aller d'une opinion personnelle. Je suis 99% convaincu que ça n'arrivera pas. Là.
Ben, c'est le souhait de la défense. La défense, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de procès là-dedans. Ça leur tente pas d'avoir un procès, là. Puis, ce qu'ils nous l'ont dit tout à l'heure, là, Maître La Rochelle nous l'a dit clairement. Lui, il va tout faire, là, pour essayer de trouver une entente avec la couronne pour que toutes les parties soient satisfaites là-dedans, puis qu'il n'y ait pas de procès. Ce qu'il voudrait, c'est permettre à Jacques Delisle, là, de mettre un point final à cette saga-là, qu'il n'y ait pas de procès, puis qu'on puisse tourner la page. Jacques Delisle va avoir 86 ans le mois prochain. Il a passé 9 années en prison déjà. Maintenant, reste à voir qu'est-ce que ça revient vraiment au DPCP là, de décider si on maintient l'accusation, si on y va avec des accusations réduites ou si on retire l'accusation tout simplement.
Ouais, mais dans le cas de l'accusation de meurtre au premier degré, elle a eu lieu, il y a eu condamnation, puis là le ministre de la Justice du Canada, après analyse au plus haut niveau avec les plus, dit que c'était une erreur. Ça place le DPCP dans une drôle de position pour revenir avec la même accusation. À mon œil, et j'ai pas étudié 3 crédits en droit à l'université. J'y vais juste d'une logique simple, logique de base, de dire, tu sais, si on dit il y a eu erreur judiciaire, à moins que tu refais le procès sur des nouvelles bases en disant voici l'erreur corrigée avec une nouvelle preuve, mais sincèrement, là, pour un homme de 86 ans, dans les circonstances présentes, avec les nouveaux faits, je le sens pas. Je sens pas que ça va être ça, la conclusion, là.
Il y a des nuances à apporter, par contre. Le ministre, il ordonne un nouveau procès à la lumière de nouvelles preuves qui n'étaient pas disponibles au moment du procès qui s'est tenu en 2012. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il dit qu'il est convaincu qu'il y a possiblement une erreur judiciaire. Il dit pas qu'il y en a une.
Non, c'est vrai.
Il est convaincu que possiblement il y a une erreur judiciaire qui est commise et il leur donne un nouveau procès pour meurtre prémédité. Là, lui, il n'a pas changé l'accusation. Donc, ce qu'il dit, lui, c'est qu'à la lumière des nouveaux éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles en 2012, on leur donne un nouveau procès pour la même accusation, mais en 2021 ou 2022, là, tout dépendant à quel moment la date de ce procès-là sera fixée.
Eh bien, mais ça va. Hier, je recevais le professeur de droit constitutionnel Patrick Taillon qui me disait c'est une histoire pour faire un film parce que c'est vraiment le cas là, le dramatique de la situation, le personnage, le nombre d'années, le nombre de rebondissements judiciaires, le procès qui avait été quand même spectaculaire avec la balistique, la poudre sur la main, c'est toute une saga.
Ah, c'est une saga, le mot est juste. Vraiment, là, moi, en tant que journaliste, là, ça a été une école extraordinaire, là, l'affaire de Lille. Là. J'ai pu passer à travers toutes les étapes, tous les recoins là, quand un procès survient. C'est très, très rare qu'on voit ça. Et vous l'avez dit, là, les personnages, entre guillemets, sont extrêmement intéressants. Il y a des gens qui pourraient être tentés de dire aujourd'hui, là, ben Jacques Delisle, il a droit à un nouveau procès. Jacques Delisle sort de prison. Les amis aident les amis. Là. Et là-dessus, ces avocats ont été plutôt cinglants là, en disant écoutez, à ceux qui seraient tentés de penser ça, là, rappelez-vous que Jacques Delisle n'a connu que des revers.
Non, puis moi j'ai plusieurs personnes avec beaucoup beaucoup de compétences en droit, du monde universitaire comme du monde de la pratique, que j'ai entendu et qui m'ont dit personnellement le contraire, qui ont dit il a payé pour l'image du système, pour justement que ça ait pas l'air de ça là, tu sais. Il a vécu le syndrome là que je vais l'appeler comme ça, mais il a vécu le syndrome du petit gars que son père arbitre au soccer, puis qui est plus sévère avec lui pour se faire accuser d'être moins sévère, tu comprends?
J'entends, ouais.
Ouais, je pense qu'il y a eu un peu de ça. Mais enfin, bon, là, de toute façon, il a passé Il est passé 9 ans derrière les barreaux. Il y a 86, ça c'est l'autre bout. Il y a 86 ans aujourd'hui. Donc on se comprend que c'est déjà quelque chose. Catherine, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir, Catherine Lamontagne, journaliste au Journal de Québec, qui en a passé des heures à suivre cette saga judiciaire.